Voilà, on y va. Est-ce que voudriez-vous me dire comment écrire votre nom, comme ça?
Alors, Issa Daouda, c'est I2SA.
Oui.
Espace D-A-O-U-D-A. D comme David.
OK.
D-A-O-U-D-A.
Oui.
Abdul, espace Aziz.
Abdul.
Abdul, A-B-D-O-U-L.
Oui.
Espace A-Z-I-Z.
Merci. Et vous êtes votre fonction dans le parti?
Alors, moi, je suis le porte-parole du parti. Et je suis le directeur de programme du candidat.
Directeur de programme du candidat.
Du candidat, ouais.
Oui. Voilà. OK, on peut y aller?
Oui, on peut y aller, oui.
Oui. Monsieur Issa Daouda, vous êtes directeur de programme du candidat Amadou et vous êtes également le porte-parole du parti. Vous avez décidé de participer au second tour. Quelle est la principale motivation?
Alors, d'abord, il faudrait revenir un peu en arrière. Hein. La décision de participer, en fait, doit être comprise comme la décision de garder la candidature de notre candidat. Cependant, vous le savez très bien, il y a une déclaration. Et dans cette déclaration, nous avons formulé un certain nombre de griefs qui sont également des revendications, et donc qui assortissent notre candidature. Nous avons un certain nombre d'éléments qui sont des revendications. Et c'est sur la base de ces revendications, de leur satisfaction, que nous allons être présents effectivement au deuxième tour ou non. Parce que ça peut changer. Alors, quelles sont ces revendications? Ce n'est que des revendications d'ordre de l'équité. Nous sommes partis aux élections. Vous l'avez sans doute suivi. Dès les premières annonces des résultats provisoires, nous n'étions pas d'accord avec certains résultats dans la mesure où ils ne sont pas en concordance avec les résultats qui nous parviennent par les PV officiels que nous remettent nos délégués. Et nous avons donc porté réserve auprès de la CENI par rapport à la diffusion des résultats. Mais comme nous sommes dans des opérations électorales, nous savons que la loi a prévu les possibilités pour nous de faire des recours. Nous avons laissé les choses se faire ainsi jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. Et conformément à ce que la loi dit, nous avons introduit des recours en annulation du vote d'un certain bureau de vote et souvent de manière générale. Alors, à notre surprise, lorsque la décision a été rendue publique, non pas proclamée, hein, lorsque la décision de validation a été rendue publique, il n'a nullement fait allusion au recours en annulation que nous avons formulé. Et quand je dis nous, ça veut dire les partis membres de la COPA. Nous estimons que la décision de validation des résultats devrait au moins faire mention que des recours en annulation ont été portés par rapport à tel résultat, tel résultat, tel résultat. Même si on doit par ailleurs les rejeter sur la forme ou sur le fond, mais il doit être mentionné. Il n'a jamais été question de cette mention. D'autre part, la proclamation des résultats est un gage de transparence. Nous sommes en démocratie. Pourquoi doit-on faire des séances qui sont censées être publiques de validation des résultats? Pourquoi ça va se faire à 0h30? Pourquoi des conseils de ministres vont se faire à 0h30? Pourquoi on lance l'ouverture de la campagne le lendemain matin de bonne heure? Donc, pour nous, il y a quand même beaucoup d'interrogations qui portent préjudice à la crédibilité même des opérations d'élection. Alors, si nous n'avons pas la garantie que les élections vont être crédibles au second tour, nous ne voyons pas pourquoi nous allons partir. Et le premier gage de crédibilité que nous souhaiterions avoir, c'est la prise en compte des recours en annulation que nous avons formulés pour la plupart sur la base d'éléments matériels irréfutables. Voilà un peu comment la situation se présente.
Donc, vous dites
Allô?
que. Allô? Oui.
Oui.
Donc, vous dites que la décision de participer n'est pas encore effective.
Oui, c'est-à-dire nous ne retirons pas notre candidat. Hein. Au départ, il y avait des rumeurs et une polémique sur le retrait ou pas retrait. Non, nous maintenant, nous ne désisterons pas. Nous ne désisterons. De toutes les façons, nous n'avons plus la possibilité de désister. Cependant, le maintien de notre candidature ne veut pas dire forcément que nous allons partir aux élections du second tour si nous n'avions pas les garanties telles que nous les avons revendiquées dans notre déclaration. Et les garanties, là, j'ai oublié de vous le dire, ça commence par la libération de notre candidat, c'est clair, net et précis. Et deuxièmement, c'est les gages de crédibilité de ces élections-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on parle de proclamation des résultats, on parle de proclamation solennelle et publique. Mais au Niger, il n'y a pas eu encore, à ce jour, une proclamation solennelle publique des résultats. Et il n'y a pas non plus eu, dans l'arrêt que nous avons lu de la Cour constitutionnelle, il n'a jamais été mention des recours en annulation que nous avons formulés et qui ont été reçus au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, et tout ça là, en adéquation avec les dispositions légales en vigueur au Niger. Donc, nous pensons que si un recours en annulation tel que le formule la loi ne veut rien dire, c'est pas la peine que nous fassions le vote. En ce moment, les résultats sont très clairs et nets. D'ailleurs, autant éviter le sacrifice au peuple nigérien et puis le gaspillage. Autant prendre peut-être même une décision d'ordre institutionnel pour dire le président, c'est une telle personne. Et adieu la démocratie et les élections.
Oui, votre candidat est sorti de prison pour des raisons médicales. Est-ce qu'on peut espérer une sortie définitive pour battre campagne?
Alors, d'abord, il n'est pas encore rentré. Hein. Selon les informations qui me sont parvenues, le président devait venir à l'hôpital de Niamey, mais l'hélicoptère qui devrait le transporter à Niamey est en panne, à Filengué. Donc, il a dû quitter le tarmac de l'hélicoptère pour retrouver sa prison en attendant qu'on trouve d'autres dispositions qui lui permettent de venir aux soins à Niamey. Maintenant, par rapport à sa libération, c'était très évident. Nous, c'est une condition préalable. Hein. Nous ne ferons pas ce que nous avons fait au premier tour. Au premier tour, si nous avions accepté d'aller quand même en campagne, alors que notre président est illégalement détenu en prison, c'est parce que nous voudrions montrer au peuple et à l'opinion internationale la garantie que nous partons de manière résolue vers les élections. Hein, parce que nos adversaires ont commencé à dire que l'opposition n'aime pas des élections, l'opposition n'aime pas des élections. C'est pourquoi nous avons voulu donc montrer notre bonne volonté, notre bonne disposition pour un Niger et sa démocratie. C'est pourquoi nous sommes allés. Mais cette fois-ci, nous n'entendons pas battre campagne à la place de notre candidat face à un autre candidat. Ils sont seuls face à face.
Oui, vous avez formulé beaucoup d'irrégularités qui n'ont pas encore trouvé satisfaction. C'est le 20 mars que le second tour va avoir lieu. Est-ce que vous
Oui.
espérez des changements d'ici là ou qu'est-ce que vous comptez faire après? Parce que votre concurrent, il va foncer.
Bon, ben, on le laisse foncer. Hein. De toutes les façons, il n'a fait que foncer depuis le début des opérations. Depuis 3 ans, il ne fait que foncer. Mais nous, nous partons résolument et nous voudrions qu'on le nous comprenne. Hein. Les élections, c'est quelque chose d'extrêmement important. En même temps, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. C'est pourquoi il faut tout faire pour être transparent, pour éviter qu'on croie qu'il y a des magouilles. Vous voyez, aujourd'hui, le Bénin vient de réaliser ce qui, au Niger, paraît pour un exploit, c'est-à-dire organiser des élections de manière crédible sans chercher à tricher. Je vous dis qu'au Bénin, la Cour constitutionnelle elle-même, pour avoir des résultats fiables, a délégué dans chaque bureau de vote un homme assermenté, sans compter les représentants de leur CENI nationale, ainsi que les représentants des partis. Et dans tous les cas, il y a eu concordance entre les chiffres qui ont été présentés, ce qui n'est pas le cas de Niger. Hein. Il y a des graves irrégularités qui sont intervenues au premier tour et on voudrait que l'on réfléchisse, qu'on tire les conclusions. Ce serait très incomplet d'envisager que le deuxième tour se réalise sur des résultats du premier tour sur lesquels on n'a pas envie de dire quoi que ce soit. Non, ce n'est pas possible. Déjà, du point de vue général, vous savez très bien que les élections illégalement au Niger se sont étalées sur 2 jours. On ne peut pas faire 2 jours d'élection sans convoquer le collège électoral. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, je défie même la CENI. Je défie la CENI de nous garantir que les élections ont eu lieu dans tel lieu ou dans tel lieu, dans tel bureau de vote. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Ils ont, après coup, sorti un arrêté pour dire les élections sont autorisées le 22 dans tel lieu. Mais ça ne correspond même pas au tiers des lieux où on a voté le 22. Et la plupart des irrégularités sont intervenues le 22. Allô?
Oui. Oui, allô? Oui. Monsieur Issa Daouda, quelle est la concession que vous êtes prêt à faire si votre candidat est libéré et que, entre-temps, les revendications ne sont pas résolues? Est-ce que vous y allez?
On ne votera pas. On ne votera pas. Ce qu'on veut, c'est que le Niger puisse nous garantir des élections crédibles. Et les élections crédibles ne sont pas des élections dans lesquelles on refuse l'examen des recours en annulation. Allô?
Allô? Oui.
Oui.
Donc, le passage en force est tel que, vous le dites, risque de compromettre la paix sociale.
Eh bien, nous, ça, ça appartient, cette décision appartient au peuple souverain. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà, ce que nous vivons n'est pas très bon pour notre pays. Déjà, notre pays se remarque de manière douloureuse dans le concert des nations. Et si, à toutes les contre-performances qu'on nous reproche, il faudrait aussi que nous nous attachions à une contre-performance sur la capacité d'organiser des élections crédibles, et ça ne vaut plus la peine. Donc, au-delà même des conséquences sociales, c'est déjà l'image extérieure du Niger qui est sérieusement écornée. Aujourd'hui, je ne suis pas fier de ce qui se passe dans mon pays. Je suis triste en tant qu'intellectuel et ensuite en tant que Nigérien, tout simplement.
Oui, c'est quand même inédit, un candidat à la présidentielle, en même temps prisonnier. Et c'est inédit.
Oui, parce que. Oui, et qu'il ait atteint ce niveau de performance, bien sûr. D'ailleurs, la performance aurait été encore plus éclatante s'il n'y avait pas eu du traficotage au niveau des résultats. Parce que nous, selon nos estimations que nous avons faites de manière scientifique, sur la base d'instruments informatiques et statistiques, le camp de l'adversaire n'a dépassé guère les 33%. L'ensemble de leur voix ne dépasse pas 33%. Vous comprenez pourquoi nous tenons à l'examen des recours que nous avons formulés, que nous avons exercés. Ils ont 33%. Et s'ils n'ont pas 33%, qu'on examine clairement les recours que nous avons faits. Et on peut même commettre, s'ils veulent, des instances internationales indépendantes pour vérifier la matérialité de ce que nous sommes en train d'avancer.
Oui, dans l'hypothèse où votre candidat n'est pas libéré et que les recours introduits ne sont pas annulés et que vous n'allez pas voter, la bataille est perdue.
Ben la bataille pour nous n'est pas synonyme d'une victoire électorale compromise. Hein. La bataille pour nous, c'est l'avènement d'un Niger véritablement démocratique. Et tout ce que nous sommes en train de faire s'inscrit dans ce sens-là. à quoi ça sert d'organiser des élections si c'est des élections truquées et orientées d'avance? Ça n'a même pas de sens. Pourquoi ne ferons-nous pas l'économie des efforts à la fois financiers, matériels et humains et qu'on dise, ouais, il est le président, il continue. Comme on fait dans d'autres pays, et d'ailleurs au Niger, ça a l'habitude d'être fait. Le président, il est bon, il est gentil, il a réalisé beaucoup de choses, laissons-le continuer, tout simplement. Pourquoi perdre le temps? On n'est pas obligé d'admettre la démocratie. Le Niger n'était pas obligé de choisir la démocratie. On suppose que le Niger a choisi la démocratie parce que elle lui semblait être une voie extrêmement importante et incontournable pour le développement, sinon ça ne sert à rien. Mais à quoi bon dire on est démocrate, faire des beaux textes pour venir les violer le lendemain matin? Ça ne va pas. Il faudrait que, absolument, toute la communauté internationale et la communauté nationale vraiment s'intéresse sur ça. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de victoire électorale. C'est une question du destin de notre pays par rapport à son évolution démocratique et républicaine qui est en jeu. Hein, qui est en jeu. Parce que si le camp du mal gagne cette victoire, qu'importe la manière dont il va gagner cette victoire, c'est les répercussions, les conséquences sur le Niger à venir qu'il faut voir. Pas juste la victoire ou la défaite d'un candidat. Non, non. C'est l'avenir de la société qui se joue en ce moment.
Oui. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale viendra se mouiller dans votre chemise?
Bien. Nous pensons que ce n'est pas la peine de verser des larmes de crocodile. Vous savez très bien que c'est les injustices électorales, les traficotages électoraux, les combines électorales qui sont la base en Afrique et d'ailleurs en Afrique et ailleurs de beaucoup d'instabilité post-électorale. Et lorsque il y a des problèmes d'instabilité, vous voyez le balai des organisations internationales, des pays bilatérales au niveau multilatéral. Mais on peut éviter tout cela. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est pourquoi, dès lors que nous avons pris notre décision, dès lors que nous avons fait les constats, nous avons alerté la CEDEAO. Parce que notre principal point focal, c'est quand même la CEDEAO. Nous avons écrit pour dire que voilà ce que nous avons constaté comme insuffisance dans la prise en charge de la question électorale au Niger et dans la validation des résultats. Et nous demandons à la CEDEAO de prendre les dispositions en pareil cas, les dispositions appropriées en pareil cas. Maintenant, si ils le font, ok, s'ils ne le font pas, nous tirons toutes les conséquences de la situation.
Mmh. Allô?
Allô, oui.
Oui, merci beaucoup. Quelle est votre adresse email? Je vais diffuser une petite partie au niveau des news, mais je vais mettre l'intégralité de l'interview sur le site web.
Très bien. C'est I, oui. I comme Issa, mm-hmm. D comme Daouda,
oui.
Aziz, A-Z-I-Z, donc I d'Aziz.
OK.
I d'Aziz, @yahoo.com.
D'accord.
Oui.
Je vais vous envoyer le lien de l'article et vous pourriez d'écouter, le partager avec.
D'accord. Ouais. Très bien.